pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO, Marie Cœur de Roy est parmi nous. Marie a failli arriver en retard parce qu'elle a du courrier, figurez-vous, du courrier d'auditeur papier. Vous pouvez aussi nous joindre par papier, merci beaucoup.
Et je lirai ce courrier à l'antenne vendredi, c'est une promesse, parce que je trouve que le sujet est particulièrement intéressant sur le logement social et ces classes moyennes qui sont locataires aujourd'hui du parc social et qui sont à peu près menacées d'être expulsées. Donc on lira vendredi à l'antenne.
Le logement social, au programme de notre séquence XXL Immobilier. Vous pouvez donc nous joindre par courrier, vous le savez. Notre adresse, c'est 2 rue Alain...
rue du Général, de Boissieu.
À Paris, dans le 15e, et vous pouvez aussi nous joindre de manière digitale. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, je suis connectée, vous pouvez m'écrire aussi par ce biais. Nous avons un gros programme et nous avons surtout des chiffres. Nous allons chiffrer et déchiffrer le marché immobilier avec vous, Alexandre Fitoussi, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le président de Beanstock. Avec vous, nous zoomons sur un chiffre clé pour démarrer, pour prendre le pouls. Dites-nous un chiffre que vous retenez pour illustrer la tension.
Alors ce chiffre, c'est 1200. 1200, c'est pas
le prix
60.
Du mètre carré à Paris.
Non, c'est pas le prix du mètre carré à Paris. Je suis sûr que je peux trouver des villes où c'est le prix du mètre carré. Non, 1200.
Saint-Brieuc, Limoges.
C'est le nombre de candidatures qu'on a reçues pour un 18 mètres carrés à 500 euros à Lille en deux semaines.
1200
candidatures
en deux semaines.
500 euros, 18 mètres carrés, 1200 candidatures au mois d'avril 2024. Donc c'est un chiffre tout frais que j'ai observé dernièrement. Ça fait suite d'ailleurs à un fameux 11 mètres carrés qu'on a loué à Paris à 610 euros, pour lequel on a reçu 800 candidatures en une semaine. Des chiffres qui donnent le tournis. Et des chiffres qui s'expliquent également, hein, puisqu'il y a des explications. On parle souvent de l'effet JO. Donc, il devrait concerner principalement Paris. Là, c'est Lille.
Bon, après, il y a d'autres villes. Typiquement, Lille accueille des épreuves des Jeux Olympiques, hein, quand même.
Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Mais la tendance s'inscrit dans un phénomène qu'on constate depuis de nombreuses années maintenant, et en particulier depuis deux ans. Puisque qu'est-ce qui se passe depuis deux ans? Les taux ont augmenté, vous l'avez probablement remarqué. Mm-hmm. Des taux qui augmentent, ça veut dire que l'achat du studio pour vos enfants quand ils vont faire leurs études dans une ville, ça devient beaucoup plus compliqué à envisager. Et les prix, malheureusement, n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Les prix n'ont pas baissé, et c'est loin de là. On peut même dire qu'ils ont continué d'augmenter. Il y a des villes comme Lille ou Marseille où les prix d'achat ont continué d'augmenter. Et donc, on se retrouve sous un nombre incalculable de candidatures, une pénurie de biens, je pense qu'on peut le dire, ça y est, on est sur la pénurie, 1200 pour un 18 mètres carrés, c'est une pénurie. Donc, évidemment, ça invite à l'investissement pour l'investisseur quand il entend ça, mais la bonne nouvelle également, c'est que la qualité des candidatures est au beau fixe et que les loyers ont augmenté. Donc, on a, pour un investisseur aujourd'hui, une équation où le prix du mètre carré, il a plutôt tendance à stagner. Les loyers en face augmentent, donc le rendement locatif a augmenté, ce qui vient compenser la hausse des taux. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on trouve son locataire aujourd'hui dans des durées records. Hein, pour trouver un locataire à Lille, c'est plus du tout ce qu'on imaginait.
C'est combien de temps, tiens, pour trouver un locataire à Lille ?
Pour Lille, donc moi je vais me concentrer sur le studio pour donner cette information. Pour le studio, on est sous moins d'un mois, quoi qu'il arrive, donc 100% des cas, c'est moins d'un mois. On trouve parfois des locataires en une journée, mais on est sur une moyenne qui est entre 15 et 25 jours.
Alexandre, en même temps, 1200 candidatures, il vous faut globalement un mois pour les éplucher.
Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, on commence à avoir des startups qui se développent pour aider à éplucher les dossiers. C'est pas une blague, hein, et elle marche bien.
Tout problème, une solution. Hein,
exactement.
Les entrepreneurs, ils sont là pour ça.
Mais est-ce que ça va durer dans le temps? On l'espère pas, très franchement.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Là, on voit l'angle d'attaque sous le point de vue de l'investisseur, où effectivement, on se dit un marché tendu, c'est forcément, entre guillemets, aussi des opportunités pour le propriétaire bailleur. Mais la réalité quand même des faits, c'est qu'on a vu là à la rentrée de septembre dernier des agents immobiliers, des agences immobilières avec des devantures avec écrit ne venez pas, il n'y a pas d'appartement à louer, quoi. On n'a aucune offre à la location.
Ouais.
Donc là, typiquement, là on est en avril 2024, vous êtes en train de nous dire que les choses ne se sont pas détendues depuis la rentrée.
Loin de là, c'est même là on attend une rentrée catastrophique en septembre. Donc là, je me place du point de vue locataire. Je pense qu'il va y avoir un grand nombre d'étudiants qui vont renoncer à leurs études faute de trouver un appartement. Il va y avoir un grand nombre de gens qui vont devoir accepter de payer des loyers qu'ils peuvent pas se permettre de payer.
Et donc, potentiellement, ne pas les payer ou pas ? Est-ce que, selon vous, ça peut être aussi...
C'est un très bon point. Alors, pour l'instant, on ne voit absolument aucun rebond des impayés sur les loyers. Mais là encore, donc il y a beaucoup de solutions qui existent de nos jours. Aujourd'hui, chez Beanstock, typiquement, on arrive à mettre en place des garanties loyers impayés qui sont payées par le locataire lui-même, ce qui est positif pour les deux. Ça permet au locataire de donner de la garantie à son dossier et au propriétaire de ne pas avoir à assumer ce frais en plus. Donc, il y a plein de solutions qui existent là-dessus. On ne voit pour l'instant pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude sur le sujet des impayés. Par contre, on a de l'inquiétude sur qu'est-ce qui va se passer en 2025. On le rappelle, on parle des DPEG tout le temps qui vont sortir la location. On n'y est pas encore là.
Bien sûr.
Donc, en janvier prochain, on a des milliers de biens qui vont encore sortir. Heureusement qu'au mois de juillet, un grand nombre de passoires thermiques vont voir leur DPE s'améliorer par magie grâce à la réforme.
On en parlera de ça aussi. Je fais une petite aparté pour nos auditeurs et téléspectateurs. Ouais. La mise à jour grâce aux petites surfaces et aux nouveaux coefficients qui devaient permettre, je dis devaient, permettre à beaucoup de petites surfaces de franchir peut-être une note, voire deux. Moi, j'ai testé sur plusieurs biens. Il n'y a rien qui change. Donc, on posera la question. On va refaire une émission quand même sur le DPE parce que vous êtes nombreux à m'alerter sur le sujet.
Quand bien même ça ne changerait pas, je fais juste une toute petite parenthèse, quand bien même ça ne changerait pas immédiatement, ça rendrait beaucoup plus simple l'accès à la bonne note. Même si vous ne voyez pas votre note changer tout de suite...
Ouais.
Le parcours vers la bonne note, il a quand même changé pour tout le monde. Ça,
mais
c'est
bref, pour revenir sur notre idée de tension locative, effectivement, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur une tension extrême, mais elle n'est pas maximale parce qu'elle pourrait être pire à partir du 1er janvier prochain. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on voit, en fait ? On voit qu'il y a des gens qui, quand ils ont chopé le logement à louer, ils ne bougent plus, ils restent dedans.
Et voilà, ça, c'est l'autre chiffre terrible. C'est qu'on voit que les locataires ne changent plus d'appartement. Donc, la rotation du parc locatif est au point mort. On a des locataires qui restent beaucoup plus longtemps que par le passé. On voit des villes dans lesquelles on était habitué à ce que le turnover moyen, le turnover, c'est le rythme auquel les locataires changent d'appartement. On était habitué à des turnovers d'environ 5-6 mois sur des profits très étudiants. Aujourd'hui, il est quasiment impossible qu'un locataire laisse son appartement en dessous d'un an. Donc, les appartements ne se libèrent jamais, ne reviennent jamais à location. Plus l'effet JO, plus l'effet taux, on est dans le cocktail parfait pour accueillir notre DPEG en 2025.
Mais je ne comprends pas pourquoi c'est forcément une mauvaise nouvelle de ne pas avoir de turnover dans son locataire. C'est moins contrainte.
Pour le propriétaire, c'est génial. Le problème, c'est que des locataires gardent leur appartement même quand ils n'en ont pas besoin. Donc, l'exemple classique, c'est le locataire qui autrefois quittait son appartement à la fin de ses études pour laisser passer l'été et en relouer un au mois de septembre. Aujourd'hui, il va garder son appartement. Et donc, ça fait encore des logements qui ne sont pas remis. Il y a des nouveaux arrivants qui ne trouvent pas appartement. C'est là on parle aussi. Évidemment, en tant que Beanstock, on se positionne beaucoup du point de vue investisseur. Et là, on peut le dire, la tendance elle est très positive pour eux. Mais du côté locataire, il faut reconnaître que c'est devenu la croix et la bannière. On a des gens qui sont prêts à tout. D'ailleurs, on est heureusement. Alors là, encore une fois, on va rentrer dans les logiques un peu politiques, mais on voit. En ce moment même, tous les atouts de certaines contraintes législatives sur les loyers. Typiquement, l'encadrement des loyers, donc pas le plafonnement, l'encadrement, celui qui vous interdit d'augmenter le loyer entre deux locataires, là, il joue son rôle, parce que je peux vous assurer qu'un bien qui se loue 500 aujourd'hui, vous le mettez à 800, il se loue immédiatement demain. C'est plutôt bien que ce soit encadré de ce point de vue-là, parce qu'on aurait...
Mais vous voyez, du coup, effectivement, parce qu'on parlait effectivement du point de vue du propriétaire investisseur, du fait que les loyers augmentent, justement, alors il y a cet encadrement à la relocation, il y a aussi l'encadrement des loyers à Paris et dans d'autres villes. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout, ça limite les dégâts, compte tenu de la tension locative, de ce qu'aurait pu être finalement le niveau des loyers, et du coup, du point de vue du propriétaire bailleur, il s'en sort comment dans tout ça ?
Est-ce que votre studio à Lille, il serait vraiment loué 500 euros s'il n'y avait pas un peu d'encadrement ? Il serait loué 1500 euros, il partirait aussi.
Alors, mais là, pour le coup, c'est le gros reproche qu'on fera au gouvernement, qui a réfléchi à la question du plafonnement des loyers, probablement, qu'ils ont accordé un certain nombre de neurones. Mais là, on a un problème, c'est que il y a autant ce que vous venez de décrire que le fait que ces plafonnements de loyers ont découragé l'investissement locatif. Donc, on ne sait pas, en fait, qui a eu le plus d'impact que l'autre. La réalité, c'est que les deux se justifient. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, ou le plafonnement des loyers plutôt, on aurait probablement beaucoup plus de studios à location, et il y aurait probablement moins d'appétit pour de la location courte durée, et on aurait beaucoup moins d'effets pervers sur le marché.
Oui, mais on aurait des loyers défiant tout... Enfin, aussi, au contraire.
Pourquoi pas ? Justement, c'est l'offre et la demande. On peut se dire qu'avec plus d'offres, on aurait une demande qui serait un peu plus équilibrée.
Mais
c'est une vraie question.
vrai, les taux d'intérêt auraient quand même augmenté et notre capacité aux primo-accédants d'accéder bien à sûr. La propriété et donc de sortir du parc. En fait, ouais.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que le phénomène de pénurie locative, on l'avait déjà en 2019 avec des taux à 0,8. Mmh. Et déjà à l'époque, on en parlait toute la journée et on était choqué de voir le nombre de candidatures.
Mais du coup, ce serait pire. C'est ça que je veux dire, Alexandre, c'est que ce serait pire.
Ce serait. Bah, je pense que fondamentalement, le problème, c'est pas les taux, c'est la pénurie d'offres. Et donc, pour régler la pénurie d'offres, on a un problème en France. On ne sait pas construire. On ne peut plus construire, ce qui vient aussi qui est à l'origine du fait qu'on a des villes qui sont magnifiques.
Oui, mais vous avez des villes qui ne sont pas extensibles à merci, on va
exactement.
Pas se mentir.
Donc, c'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs tout le travail du Grand Paris, par exemple. Pourquoi on a élargi le réseau de transport? C'est parce qu'il va falloir que Paris grandisse un petit peu. Si on veut accueillir toute l'effervescence, on le sait, il y a plein de tendances qui font que le nombre de logements alloués aujourd'hui est en pénurie. On a besoin de plus de logements. Donc,
je loue combien là à Paris en ce moment?
Pardon ?
Je loue combien en ce moment, du coup ?
Alors, si ta question est combien tu as le droit de louer, c'est très différent de combien tu loues.
Chez Beanstalk, là.
Oui, mais Beanstalk, nous, on est une agence, donc on va faire respecter l'encadrement des loyers à la lettre. Mais là, souvent, ce qu'on dit aux clients, c'est voilà le loyer légal, voilà le loyer de marché. Et là, on commence à avoir des écarts qui sont quasiment de 400-500 euros.
Ah ouais.
Je prends l'exemple typique, c'est le 11 mètres carrés.
Ouais.
D'ailleurs, plus une surface va être petite, plus vous pouvez la louer cher au mètre carré. Un 11 mètres carrés, en théorie, ça se loue hors charge, 450 euros maximum.
Alors, pardon, on n'a pas que des auditeurs parisiens. En fait, 11 mètres carrés, ça n'est pas un placard. Ce sont des endroits dans lesquels on a un minimum pour pouvoir vivre. Expliquez-nous quand même, parce
qu'on est
quand même en train de parler d'appartements de 11 mètres carrés.
Alors, il faut savoir que donc, la loi, c'est minimum 9 mètres carrés en France. Et à Paris, c'est encore plus rigoureux que ça, puisque à Paris, ils exigent minimum 9 mètres carrés dans au moins une des pièces. D'accord ? Donc, on a
sinon, c'est
traité cette question.
Mais ça, c'est le produit phare des investisseurs à Paris. Hein.
Bah, malheureusement,
le studio
Y a aussi une question de budget.
Évidemment, mais tous ceux qui investissent à Paris et dans les grandes villes, c'est la chambre de bonne ou le deux pièces. Hein.
Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle que la chambre de bonne ait changé de rôle, ait changé de fonction, qu'elle soit plus juste un service au service des plus riches qui auraient accès à une chambre de bonne comme cave. Aujourd'hui, c'est mis à disposition de locataires. Et si c'est bien fait, une chambre de bonne de 11 mètres carrés, ça peut être magnifique, hein, je vous le dis.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, on l'a dit, hein, on a eu 800 candidatures pour un 11 mètres carrés à 610 euros. Donc, on a une très forte tension locative. Bah, ce 11 mètres carrés qui se loue en théorie 450 euros maximum hors charge, plus les charges évidemment, s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, il se loue 850-900 euros, sans problème. Donc, l'encadrement des loyers, il a des vertus, mais on pourrait se poser la question inverse. Est-ce que si on avait un marché dérégulé dans lequel l'offre et la demande travaillaient main dans la main, est-ce qu'on n'aurait pas plus d'offres? Est-ce que finalement aujourd'hui le sujet c'est pas plus la pénurie que le prix? Puisqu'on a des gens qui ne peuvent juste pas se loger. Et peut-être que même des gens qui auraient le budget pour se loger ne trouvent pas d'appartement. D'ailleurs, pour information, c'est même mon cas à titre personnel.
Là, il
pour vous dire, mais ça,
il
sans blague.
Il est venu à l'antenne pour chercher un logement.
Voilà, donc si vous avez un 3 pièces. Bon, non, mais voilà, donc sans blague.
On pense à beaucoup de couples, puisqu'on raconte des histoires particulières. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se séparent en ce moment, qui vivent à Paris, et qui n'arrivent pas à se loger dans le cadre de séparation. Et c'est ce dé de divorce que Marie, vous évoquez régulièrement, qui est une réalité économique.
Et c'est ce qui crée une demande supplémentaire, cette décohabitation. C'est ce qui crée une demande supplémentaire. Juste, on a fait Paris. Maintenant, toutes les autres grandes villes ont quasiment toutes un encadrement des loyers.
Ouais.
Juste au-delà de l'encadrement des loyers, en fait, dire est-ce que effectivement, compte tenu de la réglementation, vous voyez que ça bifurque. On parlait des JO, il y a d'autres villes autres que Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que chez vous, chez Beanstalk, vous avez plein de gens qui vous disent, moi je vais sortir mon petit étudiant pour aller le louer sur les plateformes de location saisonnière qui vont bien. Et rappelons à nos auditeurs téléspectateurs, est-ce qu'ils ont le droit de le faire?
Alors, je vais tout de suite répondre à cette deuxième question pour les plus grandes villes. Notamment Paris, c'est rigoureusement interdit. D'accord ? On n'a non seulement pas le droit de sortir son locataire pour cette raison, donc c'est illégal comme congé, mais en plus de ça, vous n'avez pas le droit de louer une résidence qui ne serait pas votre résidence principale. C'est simple. Et ça s'applique pour Paris et quasiment toutes les communes qui entourent Paris. Donc déjà, pour les JO, tous ceux qui l'ont fait, sachez que vous êtes dans l'illégalité. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres villes qui sont beaucoup plus libérées sur le sujet. Lille, c'est également interdit. Lyon a une réglementation très complexe. Marseille fait exception. Donc Marseille, c'est une ville qui va beaucoup souffrir, faut le dire. On va voir les loyers qui vont beaucoup augmenter. Déjà, ils ont quasiment augmenté de 10% sur les deux dernières années. Et je pense qu'on est au tout début d'un phénomène puisque ils n'ont pas encore réglementé Airbnb là-bas.
Ouais.
C'est encore très libéré, même si ça commence à se durcir. Il y a quand même une certaine liberté et le plafonnement des loyers n'y a pas été instauré. Donc nous, ce qu'on voit, c'est vraiment une distinction aujourd'hui entre deux types de villes. Les grandes villes dans lesquelles les prix au mètre carré baissent parce que les gens ne peuvent plus y acheter, mais qui restent de très loin les plus attractives, dans lesquelles la tension locative est maximale et dans lesquelles les locataires souffrent énormément. Et en face, on a un autre marché qui est les petites villes qui avaient eu le vent en poupe post-Covid et qui aujourd'hui commencent à beaucoup souffrir d'un nouveau phénomène, c'est que la qualité des candidatures à la location a beaucoup baissé. Les gens finalement peuvent y acheter quand ils peuvent. Donc ceux qui peuvent acheter, je prends l'exemple de Perpignan, qui est une ville dans laquelle on travaillait beaucoup à l'époque. Perpignan, c'est une ville où les prix à l'achat ont beaucoup augmenté, ils continuent d'augmenter, puisque tous ceux qui peuvent acheter le font, puisque c'est une ville qui est assez rentable. Donc plus une ville est rentable, plus ça veut dire que le loyer est élevé par rapport au prix d'achat. Donc vous avez intérêt à y acheter. C'est plutôt l'inverse dans Paris, où vous avez plutôt intérêt à rester locataire.
Ouais, bien sûr.
Et donc, les gens qui ne peuvent pas acheter se retrouvent sur le marché de la location. Et nous, on a vu un phénomène très marrant dans plein de petites villes. Enfin, marrant, c'est non, pas du tout bien choisi comme mot. Voilà, notable, c'est que on a des villes dans lesquelles on a une augmentation du nombre de candidatures et pourtant une augmentation également du temps de mise en location et une baisse des loyers.
Exemple de ville où vous avez observé ça ?
Perpignan, Nîmes, Le Havre, Rouen.
Parce que vous dites que ce sont des profils de locataires qui n'intéressent pas les propriétaires bailleurs, en fait.
Alors qu'ils ne les intéressent pas avec de bonnes raisons. Les propriétaires bailleurs deviennent moins exigeants aussi dans ces villes. Imaginez, quand on vous demande de baisser un loyer en 2024, vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai entendu Lorraine, elle m'a dit que, Marie, elle m'a dit que. Et en fait, non, il faut baisser le loyer dans certaines villes, malgré l'augmentation du nombre de candidatures. Donc le marché, il est compliqué en ce moment. Je pense que le gouvernement en est conscient, puisqu'il y a quand même beaucoup de discours sur le sujet. Mais quand on entend parler de remettre en question le régime fiscal de l'MNP, quand on entend parler du DPE, des plafonnements de loyers, etc., ça a une tendance à décourager et je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour le faire.
Voilà. Illustration, s'il vous en fallait plus, de la tension locative qui concerne l'ensemble de notre territoire. Merci beaucoup Alexandre Fitussi, président de Beanstalk. Merci à votre équipe pour ces chiffres que vous avez partagés avec nous. Merci chère Marie. Vous retournez à votre courrier. On se retrouve demain à la même heure pour parler immobilier, évidemment, avec des sourires, mais surtout avec beaucoup de sérieux, parce que ces sujets ils vous concernent en tant qu'investisseur ou en tant simplement que habitant, si je puis dire. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre plateforme et notre site web, notre application, pardon, d'ici quelques secondes.